Et quand l'usine aboie, le pays chasse.
L'aventure n'a pas d'autre loi. La culture exige risque, utopie.
Et quand l'usine aboie, le pays chasse.
Seul l'acteur lui-même peut vérifier si son utopie est réaliste ou non. Penser la vie culturelle, la considérer comme action.
Et quand l'usine aboie.
Non, mais ça, c'est une utopie infaisable, mais.
Le pays chasse.
Néanmoins, il faut s'adresser à l'impossible, quoi, c'est le minimum.
Alors. Bonjour et bienvenue à la troisième et dernière rencontre sous le petit pommier de la pensée du tremblement. Nous avons inauguré il y a 2 jours ce petit pommier. On s'est dit qu'en fait, j'ai pas tout compris à la pensée du tremblement, pas déconner non plus, mais quelque part on s'est dit que le fait de faire rencontrer comme ça des gens qui se connaissent pas, qui ont des pratiques culturelles, artistiques différentes, et de leur demander de se rencontrer, de leur proposer de se rencontrer, on les a pas obligés non plus, hein. Ça procédait peut-être de cette pensée du tremblement. Voilà, et d'ailleurs, alors j'ai trouvé un texte, donc je voulais lire juste un extrait parce que ça me paraît tout le contraire justement de la pensée du tremblement, mais on peut pas lui en vouloir parce qu'il s'agit de François Mauriac, et, qui est l'immense écrivain Mauriac, et l'homme, on va dire, réactionnaire progressiste, et ça m'intéressait parce qu'il dit une phrase sur le jazz, que visiblement il n'aimait pas du tout. Je trouvais ça drôle parce que... il dit « Je hais tout ce qui interrompt la réflexion, tout ce qui attend au silence, hors de la musique qui ne trouble pas le silence parce qu'elle procède de lui, le contraire de celle qui procède du jazz. » Cela dit, il dit aussi « J'en conviens, le monde n'eût guère connu de progrès s'il n'avait été peuplé que d'esprits de ma race. » Donc il est quand même d'une grande clairvoyance. Et par rapport à ça... Je voulais aussi citer ce texte par rapport à quelque chose qui n'est pas du tout radiophonique et qui va se passer ce matin, et qui est le fait qu'on est une danseuse. Donc à la radio, ça se verra pas beaucoup, mais pour le public matinal et courageux qui est là, il profitera de cette danse qui est, on va dire, étiquetée de danse hip-hop et qui me semble être avant tout de la danse contemporaine. Donc, par rapport aux esprits qui se pensent sûrement progressistes et qui pensent encore que la danse hip-hop et de la sous-culture vaguement de banlieue, on les invite à ouvrir un peu leur esprit. Voilà, parce qu'à l'Uzest, on est là pour s'ouvrir l'esprit. Donc, on démarre avec une rencontre entre deux artistes qui sont Fanny Rioux, danseuse, et Jean-Michel God, scratatouilleur, m'a-t-il dit. Et ensuite, nous continuerons avec un conteur, François Lemaître, et qui se fera perturber par un guitariste nommé Stéphane Vernet. Voilà, je crois qu'ils se sont même pas encore vus là. Non, Stéphane est en train vaguement de boire un café vite fait, donc ça va être une vraie rencontre sur les planches. Donc on laisse la planche aux artistes et on se retrouve peut-être l'année prochaine pour des nouvelles rencontres.
Oui, c'est vrai qu'avec les oreilles, j'y vois mieux.
Je suis là. pas coco. C'est quand même un bateau facile que je voulais. Il n'est pas ici un droit. Et il ne pose pas, il est attaqué. Là, il est encore. Et au coco, c'est au bas, il est donc. Rico. T'as qu'il y a quoi? Oui, quoi? Oui, c'est ça.
Belle rencontre.
Non, merci à Radio Use.
Merci à Radio Use.
Et quand même, je voulais dire, ça enregistre.
Ouais, vas-y, vas-y.
Le hip-hop, c'est quand même une culture et une histoire. C'est pas de la danse contemporaine, comme. C'est pas la même histoire que la danse contemporaine.
Ah ouais, mais c'est pas ce que j'ai voulu
ouais,
dire.
Ouais, je sais bien.
Mais j'ai senti que ça avait contrarié. J'ai senti que ça avait contrarié. Je me non. Non, mais je devrais pas prendre la parole le matin.
Non, mais si, c'est tout à fait, c'est bien. Mais voilà, faut.
Oui, oui, oui.
Ça s'est pas fait dans n'importe quelle condition. C'est.
Mais tu veux pas en parler 2 minutes là, maintenant que t'as le micro, t'en parleras mieux que moi, tu vois.
Bah disons que l'art ça se crée pas n'importe où et ça se crée. Il faut des conditions, tout ça, et le hip-hop, bah c'est né dans les banlieues américaines. Et c'est une manière d'exprimer la rage autrement qu'en s'entretuant et qu'en se droguant quoi aussi. Donc c'est un moyen de survivre. Donc c'est pour ça que c'est important. Et que c'est un moyen de survivre aussi et de s'exprimer pour plein de gens qui n'ont pas la parole. Donc, c'est la danse, souvent c'est comme ça. Mais bon là c'est quand même. Oui, c'est dans la lignée de l'histoire du jazz, tout ça. Mais c'est bien ouais, de rendre à César aussi ce qui appartient à César. Et ça aurait pas pu naître comme ça, ça aurait pas pu exister comme ça dans les classes moyennes ou dans les classes... Voilà, c'est une histoire.
Le jazz aussi.
Ah mais pareil, pareil, mais justement, il faut être vigilant aussi. Voilà, le jazz, c'est pas... Ça peut être récupéré, tout ça, après. Voilà, ça appartient aussi à ces gens-là, quoi. Donc on peut leur rendre hommage.
Merci. Non, moi, c'était simplement ce que j'avais voulu dire. Super, on avait dit qu'on ferait pas de débat cette année, mais... Non, je voulais juste dire, en fait, parce que ça me paraissait important, parce que quand on dit danseuse, Régine Petitot-Chopinot, on va dire que c'est une danseuse. Ou si, on va dire que c'est une danseuse contemporaine, mais enfin, tu vois, voilà. Et que le côté danseur hip-hop, c'est... Voilà. Tu vois, voilà. Et j'imagine que dans les années 60, on disait musicien de jazz et qu'on disait musicien pour les musiciens. Enfin bon, bref. Moi, j'en sais rien. Bon, donc je vais arrêter de dire des conneries. Donc, je laisse la place à François et à Stéphane pour un compte. Voilà. Merci. Et après, on boit un coup de jus de pomme. Après, l'idée, c'était que on boit un coup de jus de pomme de notre pommier de la pensée du tremblement. Pour si vous voulez discuter avec les artistes, mais on coupe le micro, donc on peut se lâcher, quoi. Voilà.
Mais moi, en fait, depuis hier, on m'a dit « Demain, tu viendras raconter une histoire ici. » J'avais réfléchi. J'avais trouvé une histoire. Mais ce matin, en arrivant ici, j'ai vu le pommier. Et puis, en fait, j'ai changé. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que je me suis aperçu que ce pommier, en fait, je ne l'avais jamais vu. J'étais étonné parce qu'en fait, la rue, j'y suis passé, mais des dizaines de fois à Uzest, et puis j'avais même pas vu ce pommier. Je me suis dit qu'il était peut-être là depuis très longtemps, en fait. et qu'on était plein, on était plein à être passé devant des dizaines de fois et à pas l'avoir vu. Alors je me suis dit que il avait son importance et j'ai cherché une histoire de pote. C'était une vieille bonne femme. Elle était très vieille et elle était très pauvre. Elle avait quasiment rien à elle, juste sa toute petite maison, son petit coin de jardin. Et puis, dans ce jardin, un pommier. C'était la seule chose qu'elle possédait, la seule chose qu'elle avait à elle. Cette femme, on l'appelait Misère. Et ce pommier, c'était pour elle, c'était la source de son alimentation et de sa joie, parce qu'elle le voyait fleurir, elle voyait les fruits en été. Seulement, il y avait quand même quelque chose qui l'embêtait. C'est que le pommier, il était comme celui-là, il était sur le bord du chemin. Et puis, il y avait les gamins du village qui passaient, et puis, eux, les pommes, ils aiment bien ça, ils lui chipaient les pommes. Les pommes, c'était tout ce qu'elle avait, et elle leur en aurait bien donné. Seulement, se les faire prendre comme ça, se les faire chipper sans même qu'on lui demande son autorisation, ça lui plaisait pas. Ça l'a contrarié bien dans sa vie. Mais bon, le temps passait. Et puis un soir, elle a entendu frapper à sa porte. Elle a ouvert. Il y avait un vieux bonhomme. Un vieux bonhomme avec une barbe blanche. Il avait l'air encore plus pauvre, encore plus misérable qu'elle. Et ce vieux bonhomme, il lui a demandé la charité. Elle a dit, c'est le comble. À moi, la plus pauvre du village, on vient demander la charité. Et elle avait bon cœur. Elle a fait rentrer le vieillard. Elle a partagé sa soupe quotidienne avec lui. Elle lui a donné quelques pommes. Et puis le soir, elle lui a même proposé de dormir sur sa paillasse pendant qu'elle a dormi sur le fauteuil. Le vieillard, il était bien content. Quand il est reparti le matin, il a été la voir et il lui a dit qui il était. Il lui a dit qu'il était un ange. Les anges, on ne les reconnaît pas, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent, elle s'en était pas douté. Et il lui a dit que il était descendu par le village pour voir si dans ce village les gens avaient bon cœur. Qu'il était tombé sur elle et que vraiment, elle, la plus pauvre du village, elle lui avait offert l'hospitalité et voulait la remercier. Il lui a dit, fais un vœu, n'importe lequel, et je l'exaucerai. Elle a dit, mais moi ça va très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle a dit, mais tu veux bien quand même, un peu d'argent, une plus grande maison, un homme? Ah non, elle a dit, je connais, ça suffit. Elle a dit, non, il y a bien quelque chose qui me chagrine. C'est que, tu vois, mon pommier, il est beau mon pommier, mais toujours on me vole mes pommes. Alors, moi ce que j'aimerais bien, c'est que ceux qui montent me chipper des pommes, ils puissent pas redescendre sans mon autorisation. Ah ça, c'était une bonne idée finalement. L'ange, il a dit d'accord. Il a remercié Misère et puis il est reparti. Ça n'a pas traîné. Dès la semaine d'après, Misère a ouvert sa porte et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu trois enfants. Trois gamins qui étaient pendus aux branches, qui étaient montés piquer des pommes et puis qui n'avaient pas pu redescendre. Elle les a laissés. Elle les a laissés se dessécher quelques heures. Et puis après, quand elle a pensé que ça suffisait, elle a dit, vous pouvez descendre. Ils sont descendus. Ils sont vite redescendus, ils ont vite couru au village, ils ne sont plus jamais revenus. Personne n'est plus jamais revenu piquer des pommes dans le pommier de Misère. Elle a été tranquille. Elle a été tranquille pendant longtemps. Et puis un soir, de nouveau, elle a entendu frapper à sa porte. Et là, elle a ouvert et là, elle a tout de suite reconnu qui c'était. personne, elle avait une grande cape noire. Elle avait un teint cadavérique. Elle avait aussi une grande faux. C'était la mort. C'était la mort qui venait la chercher. Misère a dit, mais déjà ? La mort a dit, bah oui, déjà, ça fait quand même bien longtemps, là. Et puis, faudrait peut-être un peu se dépêcher, parce que moi, j'ai du boulot, j'ai encore beaucoup de maisons à faire. Bon, Misère a dit, mais je vais te suivre, mais je peux pas y aller comme ça. Je vais prendre une veste, parce que peut-être sur le chemin, il fait froid. Et puis, j'aimerais bien quand même emporter une ou deux pommes pour le trajet, parce que j'aurais sans doute une petite faim. Bah, si tu veux que ça aille plus vite, tu peux aller me les cueillir. La mort était un peu pressée, mais s'est dit, bon. Elle est montée dans le pommier. Et là, quand Misère a ouvert la porte, et ben, elle a vu que la mort était coincée. Elle était coincée dans le pommier. Elle a dit, bah, tu peux rester. Tu peux rester là, puis moi je vais être bien tranquille chez moi. Et en plus, ça va rendre un grand service à l'humanité. Et elle est retournée dans sa maison. Et bien effectivement, à partir de ce moment-là, on s'est aperçu que dans le village, et puis aux alentours, et bien plus personne ne mourait. On a atteint, on a dépassé les records de longévité. Les gens étaient très contents. Oui, mais jusqu'à un certain point. À partir d'un moment, on s'est rendu compte des inconvénients. Il y avait des gens, ils étaient vieux, ils étaient malades, ils en avaient marre. Ils voulaient partir, ils n'y arrivaient pas. Il y en avait d'autres, ils avaient eu des accidents de voiture, ils étaient tout blessés, ils étaient handicapés, ils voulaient partir, ils ne pouvaient pas. Il y en avait d'autres aussi, un peu plus loin, il y avait eu des guerres, ils étaient mutilés, ils étaient au bord de la route. Ils restaient là, ils s'en allaient pas. Au bout d'un moment, ça a commencé à devenir inquiétant. Et puis les maisons de retraite étaient surpeuplées. La Misère, elle s'est dit que finalement, peut-être qu'elle n'avait pas rendu un si grand service à l'humanité. Elle s'est dit, ben, je vais peut-être faire descendre la mort. Elle a ouvert sa porte et puis là-bas, la mort était toujours là, coincée. Alors elle lui a dit, bon bah je vais te laisser descendre, mais à une condition. À une condition, c'est que tu me laisses tranquille et que tu me laisses décider moi-même du moment où je partirai. Bon bah la mort, elle n'avait pas trop le choix, elle a dit oui. Et elle est descendue. Elle est repartie et elle s'est dépêchée parce qu'elle avait beaucoup de travail à rattraper. Et à la Misère, elle est retournée chez elle, tranquillement, et elle y est restée. On dit qu'elle est toujours là. On dit que la Misère, elle est toujours dans le monde. Mais que dans son jardin, il y a un bel arbre. Un bel arbre qui donne des fleurs au printemps et des fruits en été. Cet arbre-là, on lui a donné un nom. On l'a appelé l'espérance.
Moi, je vais vous raconter aussi l'histoire de ce petit pommier, parce qu'effectivement, on l'avait jamais vu ce pommier, parce qu'il était couvert de ronces. Ces ronces qu'on a bataillées pendant 3 jours, celles-là, qui sont devenues nos alliées, parce que maintenant elles font un superbe fond de sel, n'est-ce pas? Et ben, elles recouvraient tout ce petit carré, rote. Il y en avait jusque-là, ça c'est encore les racines des roses qui sont là, ça continuera à défricher ce petit coin. Et après j'ai su que c'est Mineto qui me l'a dit, parce que lui son arbre est mort. Il m'a dit que celui-ci on l'avait sauvé, et que ces pommes c'est une vieille race de pommes du Zest, et elles sont très bien parce qu'on peut les garder jusqu'à mars. Donc on peut les ramasser, les mettre chez soi et les manger en mars, voilà. Et merci à ceux qui ont participé à ce carré rote, même à leur insu. Donc Patrick Delettré, qui a fabriqué cette magnifique estrade il y a quelques temps, quand il travaillait dans la grange, là. Et à Jackie Liégeois, qui a fait le parasol de Radio Use.